Europe 1.
Votre invité, Sonia Mabrouk, est le président de l'Association des médecins urgentistes de France.
Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Patrick Peloux.
Bonjour Sonia, merci.
Nous sommes donc face à la 7e vague de Covid, a affirmé hier le nouveau ministre de la Santé, avec plus de 200 000 personnes testées positives en 24 heures. Patrick Peloux, en quoi le nombre de cas positifs est-il encore un indicateur d'une nouvelle vague? Plus on teste, plus on trouve, non?
Non, il faut bien, lorsqu'il y a une épidémie, avoir des indicateurs pour savoir où on va et garder ces mêmes indicateurs. C'est les mêmes, ce qui vous permet de juger de l'épidémie et de voir comment elle évolue. Vous pouvez aussi vous baser sur les 23 000 morts dues au Covid depuis le mois de janvier, et on voit bien que l'épidémie continue, elle évolue. On est assez contemplatif par rapport au virus et à son évolution, mais on a l'arme du vaccin qui est hyper importante, et on a l'arme évidemment du masque et du gel hydroalcoolique qu'il faut répéter et probablement rendre obligatoire dans certains lieux.
Ah, on va obligatoire, c'est-à-dire le masque, parce que vous le savez, là, il est préconisé par le ministre de la Santé dans les lieux bondés et les transports. Vous passez déjà cette étape, il faut aller vers l'obligation de suite, selon vous.
Écoutez, moi, je crois beaucoup au peuple français, je crois beaucoup, et on l'a vu au moment du confinement, nous avons un peuple qui est discipliné, qui est courageux et qui comprend les choses. Bon, là, l'épidémie repart. Elle est potentiellement dangereuse chez les gens qui ne sont pas vaccinés, avec des comorbidités, des personnes âgées. Vous ne pouvez pas avoir eu un discours pendant 2 ans qui a été de dire on fait de la santé publique, on fait le principe de précaution et tout. Et puis là, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté, en fait, quand il y a eu le début de la campagne présidentielle et qu'Olivier Véran, dans une euphorie, qu'on peut lui comprendre, il a dit on arrête le masque, on arrête tout, etc.
Pardonnez-moi, qu'on peut lui comprendre, apparemment, vous trouvez que c'est une erreur à vous entendre.
Ah oui, c'est une erreur.
Donc on a enlevé le masque.
Oui, il fallait le garder au moins dans les transports. Hein. Prenez le tram, prenez le train, prenez les métros quand il y en a dans les grandes villes. Vous apercevez que les gens ont enlevé le métro. Et là, à l'heure actuelle, le virus circule tellement que vous prenez le métro sur plusieurs stations, vous êtes quasiment sûr d'avoir croisé quelqu'un qui est contaminé.
Mais Patrick, voilà. Aussi, il faut le garder et le rendre tout de suite obligatoire selon vous. La question, c'est... quand est-ce qu'on l'enlèvera un jour? Si on l'enlève plus quand les indicateurs baissent, vous actez du fait que le port du masque devient permanent dans les transports.
Là, si vous voulez, je pense qu'on peut nuancer par rapport à ce qui avait été obligatoire de le mettre partout et de trouver un compromis qui consiste à le mettre au moins dans les transports. Voilà. Au moins dans les transports, au moins le mettre quand il y a des personnes fragiles. Par exemple, vous allez voir des personnes âgées ou des personnes atteintes de maladies chroniques comme les cancers et tout. Vous protégez, vous protégez l'autre. Je pense que c'est ça. De dire on fait appel au bon sens des Français, ça j'y crois pas un seul instant.
Vous venez de dire que vous faites confiance à ce peuple français.
Je fais confiance au peuple français quand d'un coup ils ont des instructions et on leur dit il faut faire comme ça. De dire juste, c'est autre chose, de dire le bon sens, les gens vous leur dites rien, ils vont rien faire.
Mais vous comprenez, voilà. Patrick Peloux, que ça fait quelques semaines, on nous a dit de l'enlever.
Mais sur la base de certains indicateurs,
aujourd'hui, on nous dit de le remettre.
Mais oui, c'est là où ça devient assez pénible. Mais il vaut mieux dire on remet le masque dans les transports, on remet le masque et on fait cette précaution, on remet le gel hydroalcoolique partout, voilà, tout ça, plutôt que de se dire au mois de septembre, s'il y a un nouveau variant, on va être obligé de ressortir cette horreur du confinement. Parce qu'on ne peut plus arrêter ni la vie économique, ni la vie culturelle, ni la vie éducative.
Avant qu'on poursuive notre entretien, Patrick Peloux, ce matin, est-ce qu'il y a un discours de la peur et le retour de Cassandre, ou alors est-ce que c'est la réalité qui exige cette mise en garde ce matin, la vôtre et d'autres?
Je serais malhonnête si je vous disais que tout allait bien et que oui, vous mettez le masque si vous avez envie et puis c'est pas grave, etc. C'est une maladie qui continue et c'est une maladie qui va être potentiellement grave. Et c'est la même chose sur le vaccin. Il faut absolument que les gens de plus de 60 ans fassent leur 4e dose comme les patients atteints de maladies chroniques.
Parce que le vaccin, Patrick Peloux, n'empêche ni la transmission, ni la contamination. En quoi préconiser cette 4e dose et l'étendre peut-être aussi
C'est surtout qu'il empêche les formes graves. C'est-à-dire que là, vous avez eu autour de vous, comme moi, des gens qui étaient vaccinés, 3 doses, et qui l'ont eu, mais ils ont fait des formes très bénignes, d'accord, avec surtout des infections ORL. Bon, voilà, c'est passé. Si il n'y a pas ces doses-là et ces vaccins, on revoit à l'heure actuelle, moins que ce qu'on avait vu au mois de mars, parce que vous avez une immunité à la fois collective, une immunité par le vaccin qui a eu lieu, eh ben on retrouve des patients qui sont graves et qui ont besoin d'aller en réanimation.
On vous entend ce matin, mais avant de repartir tête baissée dans ce processus, est-ce qu'on a vraiment tiré déjà les leçons des précédentes vagues, du bénéfice-risque d'une quatrième dose, peut-être un jour d'une cinquième, sixième?
C'est un virus qui est éminemment politique et social, en fait. C'est un virus qui s'impose à la temporalité politique. On l'avait vu aux États-Unis, on l'a vu en France. C'est un virus éminemment social, là, qui, hop, vous attrape parce que c'est les départs en vacances. C'est un virus qui vraiment.
Qui a son calendrier
et qui est vraiment.
Qui est un peu
très
prévisible,
ouais,
alors
ouais,
finalement.
C'est très emmerdant et je comprends qu'on en ait tous ras-le-bol. Bon, maintenant, faut savoir l'appréhender et savoir que ça va continuer. C'est très triste. Ça va continuer. Vous vous souvenez, il y a quelques années, on se moquait comme ça des pays asiatiques où dès qu'il y avait un virus, ils portaient tous le masque, etc. Je crains, hélas, que ça soit une habitude de notre civilisation et de notre époque. Et pour
là,
étendre...
vous parlez donc d'un changement. Parce que porter le masque, ouais, il y a évidemment les questions sanitaires, il y a aussi des questions civilisationnelles. On masque le visage, le sourire, c'est quand même quelque chose d'important dans nos sociétés.
Mais justement, dans les transports, je pense qu'il y aura... il va y avoir une habitude, comme vous dites, civilisationnelle, de se dire que maintenant, il va falloir se protéger quand vous prenez les transports et en période d'épidémie.
Oui. Mais si on suit votre raisonnement, Patrick Pelou, on sait que l'état d'urgence sanitaire doit s'achever fin juillet. Il sera remplacé par un projet de loi intitulé « Veille et sécurité sanitaire ». Pour vous, il faut le prolonger, cet état d'urgence, le rendre permanent ?
Non. Il faut juste l'adapter. Moi, je pense que le pass sanitaire, notamment à l'entrée du pays, est nécessaire.
Aux frontières.
Frontières, voilà. Je pense que ça c'est nécessaire. Et il faut quelque part, mais ça va être très difficile, parce que vous avez dans des partis politiques comme le Rassemblement National, beaucoup d'anti-vax, comme on dit. Ça sera difficile. Difficile qu'ils maintiennent cet état d'urgence. Bon, et quelque part, c'est pas mal que ça s'arrête, justement pour aller vers une habitude de compréhension et d'habitude par rapport à la pandémie.
Mais vous êtes d'accord, Patrick Pelou, sans être du tout contre les vaccins, on peut quand même se poser des questions sur l'état d'urgence. On n'est pas anti-vax et poser des questions légitimes et politiques.
C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Mais c'est sûr que là, faire durer l'état d'urgence tel qu'il avait été dessiné par rapport à la pandémie, par rapport au fait qu'on ait le vaccin, etc. Ça, je pense que faut changer de modèle. Ça me paraît tout à fait raisonnable. Et ce que fait le gouvernement, ça me paraît intéressant. Bon, mais faut pas pour autant faire croire que tout s'arrête, parce qu'à ce moment-là, l'épidémie. Et puis n'oubliez pas qu'on ne sait pas où on va en septembre, ou si jamais vous avez un nouveau variant qui arrive.
Est-ce qu'on ne va pas vers une maladie chronique ?
On est complètement d'accord.
Et dans ce cas-là, ne faut-il pas s'habituer à vivre avec elle ?
Mais c'est ce que je vous dis. En fait, il y a une nouvelle maladie qui est arrivée sur Terre. Et c'est là où la science a besoin de parler, parce que, en fait, est-ce qu'il n'y a pas une conjonction entre le réchauffement climatique, l'arrivée de ces virus, l'arrivée de la variole du singe, l'arrivée de la fièvre hémorragique qui est en train de sévir en Afrique, etc. Il y a des tas de questions comme ça qu'il faut se poser.
Et ça, qu'avec le recul qu'on le saura.
Oui, et la science.
Et la science. Vous connaissez bien, en tout cas, vous le connaissez, le nouveau ministre de la Santé, François Braun, Patrick Pelou.
Oui,
l'Association
bien.
Des médecins urgentistes, vous la présidez.
Oui,
cette même association qui estime que la nomination de François Braun est une provocation eu égard à ses propositions sur la régulation des admissions aux urgences. Vous partagez totalement la position de votre association?
Évidemment, c'est-à-dire que pour tempérer ces propos,
vous avez
François Braun, oui. Équilibre. François Braun a fait ce rapport avec son organisation, SAMU Urgences de France, qui est devenue un parti politique. Bon, c'est comme ça. C'est son succès. Moi, j'admire ce qu'il a fait. J'admire François, je le connais très bien. C'est un mec qui est extrêmement intelligent, qui est travailleur. Donc, et puis, il connaît le terrain, il connaît les choses de la santé, surtout de la médecine d'urgence.
Je me trompe ou dire qu'il a un profil politique dans votre bouche n'est pas forcément un compliment, c'est-à-dire qu'on s'adapte.
Ah non, vous vous trompez. Oui, ah, vous vous trompez. Bien. Ah non, non, moi,
donc, c'est un objectif qu'il a atteint pour vous.
Ouais, il a atteint un objectif. Non, non, vous savez, ceux qui s'engagent dans la carrière publique, la politique, moi, je les salue à chaque fois. Je l'avais même dit, j'avais rencontré Valérie Pécresse au moment de la campagne présidentielle, c'est la première chose que je lui avais dit. J'avais dit chapeau, avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur les machins et tout, il faut avoir une sacrée carapace pour affronter tout ça. Bon, et François, il y a juste, on n'est pas d'accord. Ça fait des années que nous ne sommes pas d'accord.
Mais sur un sujet essentiel.
Essentiel, la fermeture des services des urgences. Nous sommes totalement opposés à ça.
Mais expliquez-nous la philosophie de votre opposition, Patrick Pelloux, parce que refuser certaines arrivées aux urgences, les fermer ou les filtrer la nuit, quand on lit les propositions de François Braun, on est amené à se dire, est-ce que c'est une vision libérale de l'hôpital et des urgences qui vous oppose? Est-ce que c'est sa vision à lui, selon vous?
Oui. Complètement. C'est-à-dire que là, on va parler boulot, en fait. Vous savez si quelqu'un qui vient aux urgences, c'est grave ou pas grave, à partir du moment où vous l'avez vu. Mmh. Où vous l'avez vu avec l'œil et l'expertise du professionnel. Vous payez des impôts, nous payons des impôts, celles et ceux qui nous écoutent payent des impôts pour avoir des services publics. Ce qui fait que votre cerveau est en équilibre et se dit en sécurité, c'est parce que dans votre cerveau, vous avez trois petites cases qui sont A, on t'a fait mal, il y a la police, il y a le feu, il y a un danger imminent, t'as les pompiers, t'as un problème de santé, t'as les urgences. Voilà. Là, on enlève cette troisième case. C'est très grave. Donc d'un coup, il y a une forme d'insécurité qui se crée. Je vais revenir, c'est très important ce qui se passe actuellement. Et du coup, quand quelqu'un vient, vous savez si ce qu'il a, c'est pas grave, une fois que vous l'avez vu. Là, leur mode de tri qu'ils ont mis en place, à Bordeaux, à Grenoble, dans d'autres villes, il y a des choses qui sont insensées, on refuse de voir les gens. On leur dit, vous allez téléphoner au SAMU et on va vous dire s'ils viennent. Mais pire que ça, dans la Sarthe, il y a avant-hier, il y a eu la une du journal de la Sarthe où d'un coup ils disent, ah non, le SAMU est aussi débordé, donc vous appelez même plus le SAMU, puis vous pouvez même plus aller aux urgences. Quelles sont les conséquences? Ce qu'on voit, j'étais encore avec un collègue au téléphone avant de rentrer dans votre studio, eh bien, vous avez des gens qui disent, on va pas gêner. On va pas déborder. J'ai une douleur dans la poitrine. Je suis resté. Nous voyons arriver doucement, mais sûrement, des infarctus constitués.
Il y a des gens qui ont des infarctus qui attendent quelques jours.
C'est dramatique. Ouais. Non, c'est dramatique. Dramatique. J'ai une de mes collègues. J'ai pris une position très radicale pour le fait que tout reste ouvert et que l'accès soit libre et que les gens puissent voir des médecins urgentistes. J'ai une collègue qui m'a dit, on voit arriver en neurologie des accidents vasculaires cérébraux constitués. Donc, ce qui fait que, si vous voulez, on n'est pas des super-héros, on n'est pas des bénis oui-oui, c'est juste l'état actuel de la science qui doit s'exercer sur les gens en période d'urgence. C'est fondamental.
Qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, le ministre hier, il dit, ma responsabilité, c'est d'ouvrir des lits. Et il ajoute, si vous avez la baguette miracle pour créer 150 000 postes de soignants, je suis preneur. Vous l'avez, vous, cette baguette magique?
Ah bah oui, augmenter les salaires.
Mais vous avez parlé...
Mais augmenter les salaires. Mais Sonia, mais vous essayez de vivre dans les grandes villes, notamment à Paris, avec 2000 euros par mois quand vous êtes aide-soignante. Vous voulez que je vous raconte juste leur vie? Leur vie, c'est quoi? Vous pouvez pas vous loger à Paris. Vous pouvez pas vous loger à Paris. Si vous faites des bébés, en plus, ça sera impossible d'y vivre. Donc, du coup, vous allez vivre en banlieue. Venir de banlieue quand il faut être en poste à 7h du matin, faut vous lever à 4h du matin. Il n'y a pas de transport. Donc, faut prendre la voiture. Vous avez vu le prix de l'essence? Les aides-soignantes, les infirmières, les ambulanciers, les manip radio, etc., ils peuvent pas. Donc, moi, j'ai la solution, puisqu'il veut une idée. Augmenter les salaires. Vous augmentez les salaires. Vous savez ce qui s'est passé au Canada? Ils avaient le même problème que nous. Ils ont augmenté de 30% le salaire des infirmières. Effectif plein. Voilà.
En combien d'années?
Ça a fait à peu près un an. Ils ont réussi à remettre
une question
choses.
De court terme. Ouais. Je sais qu'elle va peut-être vous agacer, mais elle se pose. On manque de soignants cruellement. Est-ce qu'on réintègre les soignants non vaccinés?
Ah oui, je crois qu'il faut.
ministre a dit c'est pas d'actualité. Vous avez changé d'avis sur ce sujet?
Non,
vous avez
non, parce que j'ai jamais changé d'avis. Non, non. Quand il y a eu la crise et qu'il fallait vacciner, il y a eu ces mesures qui étaient logiques parce que vous pouviez pas venir en n'étant pas vacciné. Et on savait, notamment dans les EHPAD, qu'une partie des malades et des personnes âgées qui sont décédées, c'est malgré eux, les personnels qui ont apporté le virus. Bon. Donc il fallait faire quelque chose. Bon, à l'époque, Jean Castex, à mon avis, a eu raison. Fallait taper du poing sur la table et on a un carnet de vaccination. L'acte de se faire vacciner, c'est un acte de science, c'est un acte vraiment de plénitude de l'exercice de la science et de compréhension de l'état actuel de la science. Donc, vous êtes soignant, vous appliquez la science et il faut faire vacciner. Il y en avait qui étaient retors, qu'on dit non, 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 on ne veut pas se faire vacciner. Donc, ils ont été exclus. Là, l'épidémie a évolué. La priorité, c'est de réouvrir des lits parce que, comme je vous disais, il y a tous les autres malades. Il n'y a pas que le Covid dans le système de santé. Il y a tous les autres malades. Alors, il faut les réintégrer parce qu'en effet, ça fera quelques milliers de personnes. Et ben, ça fera autant de lits qu'on ouvrira. Et je vais vous dire, il y a un côté grandeur. Vous voyez, il y a un côté grandeur par rapport à dire, bon, bah, écoutez, finalement, OK, table rase. Mais par contre, que le ministre mettre la vaccination obligatoire dans le recrutement pour les soignants. Et il faut vraiment instaurer cela.
Merci Patrick Pouloux. Est-ce qu'on peut vous souhaiter, nous souhaiter un bel été malgré...
Mais évidemment,
bon,
à
très
table.
Bien. Mais avec prudence et précaution.
Évidemment.
Merci à vous et bonne journée.